franceinter.fr.
Campagne, bonjour. De retour dans l'Aisne aujourd'hui avec François Turquin, qui préside l'association Ciné Jeune à l'origine d'un festival jeune public qui enregistre 40 000 entrées en moyenne chaque année, un score que bien des festivals voudraient obtenir. Et puis nous rejoindrons ensuite à son bureau normand Sylvie Le Calvez, directrice éditoriale du magazine Village, pour vous soumettre de nouveaux portraits d'acteurs du local et du rural. Mais avant cela, un mot sur l'association Moulin de Brisé à Montier, dans le sud de l'Aisne, à une douzaine de kilomètres de Château-Thierry, où nous serons tout à l'heure pour le jeu des 1000 euros. Ce moulin de grande taille fut transformé au XXe siècle en menuiserie, activité reprise par l'association qui anime cet écolieu associatif. Car le Moulin de Brisé se présente sous ce mode d'écolieu, avec aussi un projet d'habitat participatif en cours de réalisation. Il y a encore de la place pour des familles, je crois pour deux familles encore, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller au lien qu'on va vous indiquer. Il y a des activités agrobiologiques et des formations artistiques aussi de prévues au programme. 3 ans après son acquisition par le collectif, le moulin reprend vie avec des aménagements, des extensions, un espace de production artisanale, des ateliers artistiques et un accueil de chantier participatif, puisqu'une cinquantaine de woofers venus des 4 coins du globe ont déjà participé, a déjà participé à la réhabilitation des bâtiments. Donc il y a une page Facebook moulindebrisé.fr, mais vous allez trouver ce lien à nos pages d'émission.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
François Turquin, bonjour.
Bonjour.
François, vous êtes président de l'association Ciné Jeune de l'Aisne et vous organisez depuis le 13 mars la 35e édition du Festival international de cinéma jeune public de l'Aisne. C'est encore pour une dizaine de jours, jusqu'au 15 avril. Jeune public, on définit comment? Parce que c'est vaste.
Alors, le jeune public, ça commence dès la petite enfance jusqu'à la grande adolescence. Et même jusqu'au public adulte, hein, puisqu'il y a toujours un grand nombre de spectateurs par an qui viennent assister aux séances et qui prennent plaisir à voir tous ces films merveilleux, donc des 18 mois jusqu'à nos lycéens et universitaires. Ouais.
Comment faites-vous pour sélectionner un programme qui s'adresse à ces tranches d'âge?
Alors, nous sommes une petite équipe de bénévoles, une petite équipe de permanents qui prenons soin de regarder dans tous les magazines consacrés au cinéma jeune public les sorties. Nous sommes aussi en lien avec tout un réseau de diffuseurs qui nous adressent des films. Et puis, on va sélectionner et on va visionner tous ces films. Et on fera une sélection qui sera ensuite présentée aux jeunes spectateurs axonnés.
Je pose la question parce que c'est pas facile de rendre adéquate cette programmation par rapport à des très jeunes et des moins jeunes. Aujourd'hui, il y a des précautions qui sont prises, vous savez, à l'égard de l'impact de l'image sur la jeunesse, sur les enfants. Alors comment vous procédez, vous, pour ne pas être débordé par ces risques?
Alors, quand il y a un souci, quand on se pose une question à se demander si le film peut être présenté à des jeunes enfants, on va s'adresser à quelques experts, hein, des regards, par exemple, de psychologues, hein, qui vont nous aider à ne pas commettre une erreur. Et ensuite, nous réfléchissons à la tranche d'âge à laquelle nous allons conseiller ce film.
Oui. Et il ne s'agit pas uniquement de présenter un programme de film, même si le vôtre est quand même assez hallucinant. 14 longs métrages, près de 100 courts métrages, 3 compétitions internationales, 25 villes d'accueil, 29 lieux de diffusion partenaires, 180 séances, ça fait beaucoup tout ça. Mais au milieu de ça, il y a des ateliers créatifs, il y a des rencontres, et on donne la possibilité aux enfants d'approcher la technique cinématographique.
Voilà, chaque séance est quasiment toujours accompagnée d'un atelier avec des jeunes réalisateurs locaux ou alors avec des techniciens, hein, dans tous les domaines du métier du cinéma, et qui viennent présenter leur travail à des jeunes spectateurs qui ont besoin aussi d'entendre que le cinéma, c'est toute une gamme d'artisans hein, et qui vont découvrir ces métiers dont ils n'avaient pas imaginé l'existence, dans la mesure où quand on regarde un film, on voit les acteurs, mais on n'a pas idée qu'il y a des beaux métiers, des métiers qui vont nécessiter et qui vont peut-être avoir besoin d'une passion que l'on pourra peut-être nous faire naître à l'occasion des séances que nous projetons.
Oui. Vous avez commencé tôt, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui d'action auprès des jeunes, via l'image, on parle de sensibilisation à l'image, d'appréhender un art, de développer un sens critique dans le décryptage des images, vous avez commencé très tôt, parce que si je calcule bien, tout démarre dans les années 80.
Oui, alors c'est l'un des plus anciens festivals dédiés au jeune public. Le créateur, Raymond Lefebvre, était passionné de cinéma. Et là, nous avons continué à poursuivre ce but d'origine, hein, c'est-à-dire de faire découvrir des œuvres originales, des œuvres riches, jusque dans les petits villages de notre département rural.
Et Marine, qui fait bien la communication chez vous, nous dit « Ce festival, c'est le point d'orgue d'actions menées au cours de l'année, avec pour résultat 40 000 entrées ».
Oui, alors nous participons au dispositif scolaire école et cinéma, collège au cinéma,
oui.
Et avec bien sûr toute une démarche pédagogique engagée à la fois par les enseignants et par les acteurs de Ciné Jeunes.
Les dernières étapes de la dernière ligne droite, François ?
Alors nous serons à Guise du 12 au 15 avril avec bien sûr la compétition long métrage qui est le point fort du festival. Nous projetterons devant les jeunes jurés, c'est-à-dire 6 jeunes du collège Camille Desmoulins de Guise et 8 petits étrangers qui viendront de Suède, d'Allemagne, de Slovénie et d'Italie. Nous projetterons des films inédits, 6 films inédits, et ce sera leur rôle de juré, déjà d'apprécier, et puis de retenir un film qui les aura particulièrement marqués. Et puis il y aura également le ciné-soupe au château de Guise. Alors il y aura un premier film qui sera projeté dans l'après-midi, puis une fanfare à la sortie de la séance nous guidera jusqu'au château, où nous aurons l'occasion de déguster une excellente soupe, et puis ensuite une sélection de courts-métrages de douce épouvante, on va dire, pour faire frissonner les jeunes spectateurs dans les salles souterraines du château.
Bravo. Festival international de cinéma jeune public de l'Aisne, donc jusqu'au 15 février, cinéjeune02.wordpress.com. Bravo et merci beaucoup, François.
Merci à vous.
L'histoire qui suit mérite vraiment d'être contée. D'abord, elle est unique en France, puis ensuite, elle se poursuit loin des radars médiatiques, selon une expression très en vogue en ce moment. Il s'agit du centre culturel La Luciola, implanté, c'est son caractère inédit, au sein d'un centre hospitalier gérontologique à La Fère, dans l'Aisne, à mi-chemin entre Saint-Quentin au nord et Langres au sud. Cette implantation date de 2010 et est le fruit du travail avancé conjointement par Philippe Areski, directeur du centre hospitalier de l'affaire, et Claude Kunetz, producteur de cinéma. Drôle de rencontre, penserez-vous, et pourtant il y a une bonne raison à cette création du centre. Déjà en 2003, suite au tournage du film Rien, voilà l'ordre de Jacques Baratti au cœur du monde de la psychiatrie, Claude Kunetz investit l'hôpital de Prémontré, qui a servi de cadre à la réalisation du film pour y créer un premier espace culturel. Le souhait est d'y développer un programme d'activité artistique avec les patients, auxquels participent des étudiants d'école des beaux-arts et des artistes graffeurs. L'expérience suscite un tel engouement qu'une autre opération près de malades atteints d'Alzheimer du centre gérontologique est lancée 7 ans plus tard à l'affaire. Et le programme de la Luciole à la Luciole, qui s'enrichit en permanence, s'ouvre à tous les publics, les personnes âgées, les adultes, les adolescents, les enfants. Toutes les activités sont libres et gratuites. Elles sont encadrées par des artistes professionnels. Alors, il y a une section photo, il y a des ateliers percussion, vidéo, danse, arts plastiques. Et au moment où le centre nous avait contacté une première fois par un courrier, un partenariat avec le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, était en cours de montage dans le but de faire découvrir l'art contemporain aux résidents du centre de gérontologie. Aujourd'hui, le centre s'adresse autant aux patients, au personnel et aux résidents qu'aux personnes extérieures. Le site du centre, d'ailleurs, donne une bonne raison à ses pratiques artistiques et culturelles. Je cite, « Il est essentiel de penser l'hôpital comme un lieu en mouvement, en dehors des soins, de permettre l'expression des aspirations de chaque personne âgée. » Comme toujours, il y a le lien avec le centre La Lutiola à l'affaire à notre page d'émission franceinter.fr et à la page d'émission Facebook. Et puis une précision sur Claude Cunetz, connu pour défendre et produire un cinéma d'auteur. Il a fondé aussi une galerie dans le 10e arrondissement de Paris, Wall Works, et propose chaque année un programme de 4 à 5 et grandes expositions de jeunes graffeurs et plasticiens. Voilà qui est dit. On rejoint Normandie, Sylvie Le Calvez. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, depuis les studios de France Bleu Normandie Caen, directrice de publication du magazine Village, dont le numéro de printemps, on a présenté un dossier sur les paysans urbains, ouvre d'autres horizons avec des portraits. J'aime beaucoup les portraits que vous réalisez. On a beaucoup de reconversions, de personnes assez jeunes qui ont décidé de changer de vie, qui se sont lancées parfois dans une production assez fragile et délicate, et qui ont gagné une certaine notoriété. On va donner des exemples. D'abord, il y a l'entreprise de Samuel Moussali. Il est producteur d'huiles essentielles dans les Pyrénées-Orientales. Et il était ingénieur chez Peugeot.
Oui, alors comme quoi, effectivement, beaucoup de ces projets innovants se font dans le cadre de reconversion. On a envie de donner un sens à sa vie et de retrouver de l'espace, de retrouver une qualité de vie. Et c'est vrai que souvent, on s'aperçoit que dans nos reportages, quand on regarde le parcours, ce sont souvent des personnes qui étaient dans un tout autre univers. Alors, soit avec des catégories socioprofessionnelles supérieures et qui se sont dit, mais c'est quoi le sens de ma vie? Soit des personnes employées, hein, de façon classique, mais qui se disent, j'ai envie d'avoir ma propre activité, ma propre entreprise. Souvent, d'ailleurs, c'est quand même difficile de retrouver le même niveau de revenus. Hein. Souvent, c'est le SMIC, un peu plus du SMIC, mais c'est pas du tout les revenus qu'ils avaient quand ils étaient ingénieurs, par exemple, dans une grosse entreprise ou chez Peugeot avant. Là, en tout cas, pour Samuel, effectivement, il s'est lancé dans les plantes et la production d'huile essentielle en biodynamie, donc il y a un cahier des charges encore plus difficile que sur l'agriculture biologique. Il va aussi récolter du pin sylvestre à plus de 1000 mètres d'altitude pour qu'il soit de très bonne qualité. Il commercialise toutes ses eaux florales en biocoop et puis aujourd'hui, ça marche.
Taillebois, dans l'Orne, c'est loin du siège du magazine ?
Non, c'est à côté. Nous n'avons pas fait un grand reportage à l'autre bout de l'Hexagone. Mais c'est une très belle initiative de deux jeunes femmes qui sont lancées dans l'éco-construction, donc qui font à la fois du conseil pour des personnes qui veulent faire des constructions en terre, des enduits originaux, des dalles, des tomettes, etc. Donc, ils sont vraiment des maçonnes formées à ça, hein, formées en restauration du patrimoine bâti en éco-construction. Et puis, qui ont même fait leur maison témoin, qui est magnifique. Donc, la structure est en terre et l'intérieur est en paille. Pour l'instant, c'est difficile de gérer ça et de commercialiser à l'identique à cause des assurances, mais ça leur fait quand même une belle vitrine de leur activité qui marche bien à condition de compléter des activités de conseil, de mettre directement les mains à la pâte comme maçonne, entre guillemets, spécialisée dans ces techniques de restauration à partir notamment de terre ou de chaux. Et puis, justement, un temps où elles ont pu faire cette maison témoin.
Elles ont trouvé un nom sympathique, les Guêpes Maçonnes. Or, leur site, c'est lesguêpesmaçonnes.fr. On change un tout petit peu d'endroit pour aller à l'entrée de la Bretagne, en Ille-et-Vilaine, à Cornillé. Françoise et Denis ont récupéré des foudres. Ce ne sont pas des foudres de guerre, ce sont des foudres. C'est les anciens immenses tonneaux de cidre. Ils en ont fait des chambres d'hôtes.
On va pas dire qu'on a eu un coup de foudre pour ce sujet, ce serait un peu facile, c'est vrai. Mais effectivement, Françoise et Denis ont eu l'opportunité de reprendre ces immenses tonneaux, ces très gros tonneaux, qui allaient partir en déchets, hein, pour brûler, pour faire du bois de chauffage. Ils se sont dit, non mais c'est trop dommage. Et ils ont installé des chambres d'hôtes, de luxe quand même, hein, dans ces tonneaux, qu'il a fallu bien sûr étanchéifier, hein, comme un peu on le fait pour des toitures végétales, avec une couche de goudron et puis un recouvert végétal par-dessus, mais ça fait des sortes de mini-maisons. On est habitué maintenant, je sais pas, aux tipis, aux roulottes, etc. Et là, ils se sont dit, et pourquoi pas dans les tonneaux ? Ça marche, c'est bien sûr un complément de revenus, hein, pour Françoise, puisqu'à côté, ils sont agriculteurs. Ils ont quand même des poules, des moutons, des cochons, 6 vaches bretonnes et jerseyaises pour fabriquer du fromage blanc, et qui servent d'ailleurs sur leur table, hein, puisqu'ils font aussi table d'hôtes. Mais c'est quand même un habitat original, et c'est pour montrer que finalement, l'imagination, elle est sans limite.
Oui. Ça s'appelle les foudres de la Fouquet, lesfoudresdelafouquet.fr. Et puis un dernier exemple, à nouveau un couple, Françoise et Philippe, pareil, reconversion. Ils se sont lancés dans la création d'un vinaigre à base de pinot. Ils vendent à Londres, ils vendent à Berlin, ils vendent à New York. Et ils ont comme client la grande épicerie du bon marché, Fauchon ou la maison Plisson. Pas mal, hein, pour débuter.
Oui, pas mal. Et puis les débuts ont été difficiles. Hein. Ils ont persévéré parce qu'ils ont créé en 2007 leur conserverie après 4 années d'expérimentation pour peaufiner dans la lessiveuse familiale des recettes maison. Donc avant, pareil, hein, Philippe, il était dans le design à Angoulême. Et en complément du vinaigre à base de pinot, ils font des soupes, des condiments un peu haut de gamme qu'ils vendent effectivement dans ces boutiques de luxe. Ça y est, et on peut dire que l'affaire est lancée, tourne bien, avec des débuts difficiles, mais aujourd'hui, très belle réussite.
Et ils sont à Rouillac, en Charente, c'est la conserverie Fleuriet, conserverie trait-d'union-fleuriet.com. Vous allez retrouver donc tous ces dossiers dans le dernier numéro de printemps 2017 du magazine Village. Merci beaucoup Sylvie.
Merci Philippe et à bientôt.
À bientôt. Pour la dernière, demain, vendredi, des carnets dans l'Aisne, nous donnerons l'exemple unique en France de la ferme de Moyenbris qui prépare à la liberté et à l'insertion professionnelle des détenus en fin de peine. Et puis on ira du côté du village de Condé aussi. Puis je vous rappelle, au mois de mai, le Gers, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et la Drôme sont au programme. N'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup.